La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
C'est la rentrée de la planèse du jazz qui aurait dû se faire le 1er octobre.
Et oui, c'est ce qui était prévu, mais
vous avez pu observer que la station a quelques difficultés à gérer Internet actuellement pour des raisons qui sont à l'étude et en cours de règlement. Et on nous a demandé de surseoir de 8 jours. Mais le 1er octobre, c'était quand même une date intéressante pour nous parce que nous avons connu les vacances, les vraies, les grandes, qui allaient du 1er juillet au 1er octobre. C'est pour ça qu'on rentre généralement le 1er octobre.
Et oui. Les petits élèves qui sont en train de travailler pensent, ils avaient bien de la chance. Waouh !
Eh oui, c'était le bon temps. Enfin, c'était le bon temps ensoleillé à l'époque où nous pouvions courir très vite, sauter très haut, etc.
Mais nous allons partager un peu de bon temps avec vous.
Et pour reprendre le cours de nos émissions, rien de tel que de nous faire un petit rappel du genre de musique que nous diffusons sur la planète du jazz.
Et oui, le jazz, c'est une musique populaire, des Noirs américains.
C'est eux qui l'ont inventé et ça fait plus de 100 ans, à partir de tout ce qu'ils avaient vécu, de leur culture propre, de leur tribulation, s'il faut le dire, parce que l'origine du jazz se trouve dans l'arrivée des esclaves aux États-Unis. Il ne faut jamais oublier ça.
Effectivement, ce sont des gens qui ont une biculture. Ils ont la leur propre, ils avaient la leur propre lorsqu'ils étaient africains, puis on les a pris comme esclaves et finalement ils ont été obligés de se plier un petit peu à la culture de leur maître qui était une culture européenne et tout ça, Afrique et culture européenne, ça a fait une culture propre qui s'appelle le jazz.
Tout le monde sait que le jazz a commencé à la Nouvelle-Orléans. Nous y voici avec une marche enregistrée par l'orchestre de Kidori qui commence comme un brass-band, vous pouvez imaginer la lyre sans floraine ou la rive de la Lagnon, et qui se poursuit en jazz au bout d'une petite minute.
Voici donc Gettysburg March de l'orchestre de Kidori.
We'll be right back.
Eh bien, voilà, ça déménageait. Hein. Ah ça, oui. C'était à l'époque.
Ça, c'est le Nouvel-Orléans tel qu'il a été créé et qu'il est très vite devenu cette musique populaire louisianaise qui a pris toute l'extension qu'on sait.
Mais de façon amusante maintenant, voilà exactement, non pas la copie conforme, c'est jamais des copies conformes, mais voici quelque chose qui est du même esprit et qui est de maintenant.
Kermit Ruffin est le trompettiste et chef d'orchestre de cette formation qui est exactement similaire à celle de Kidori. Simplement, tous ces gens-là n'étaient pas nés et loin d'être nés quand Kidori a enregistré Gettysburg March. Mais il y a une continuité dans le jazz, les individualités se succèdent, la musique varie. Mais ce n'est pas comme une chaîne. En fait, c'est plutôt un jardin où certaines plantes apparaissent, font un peu tache d'huile, et puis voilà. C'est comme ça que ça marche, le jazz. Et en fait, ce n'est pas une musique qui s'arrête aux années 30, puisque ce que vous allez entendre, c'est un très vieux morceau de la Nouvelle-Orléans, puisque un des thèmes vient d'une valse du XVIIIe siècle française.
Eh bien, dites donc. Mais c'est de maintenant.
Mais c'est joué maintenant par un orchestre de la Nouvelle-Orléans. Et je peux vous dire que Kermit Ruffin, le trompette, que j'ai rencontré au Festival d'Ascona cet été, et avec qui j'ai même fait le bœuf, c'est un garçon charmant, modeste, mais alors, cuit au point de vue trompettiste.
Il sait jouer.
Là, il sait faire, hein. Vous allez voir. Tiger Rag.
Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger. Hold that tiger, hold that tiger, don't let him get away. Hold that tiger, hold that tiger, hold that tiger, Ray. Hit him, scratch him, bite him, punch him, but hold that tiger, Ray.
Encore un morceau de maintenant et avec quelqu'un qui est tout à fait exceptionnel. Il s'appelle Wynton Marsalis.
Il est de la Nouvelle-Orléans, comme Kermit Ruffin, un peu plus âgé, mais à peine.
Alors lui, c'est le petit Mozart de la trompette. Imaginez-vous que ce garçon-là a commencé la trompette classique et à 14 ans, il était dans un orchestre classique vedette.
Premier trompette, hein, dans un orchestre symphonique à 14 ans, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre.
Ce garçon hyper doué, il sait jouer toutes les sortes de musique. Tout, tout. Les plus difficiles, les plus faciles, il est génial. Mais son jardin personnel, secret, c'est le jazz.
Forcément, puisqu'il est de la Nouvelle-Orléans, d'une famille où tout le monde faisait de la musique. Et non seulement son jardin secret, c'est le jazz, mais le maître de ce jardin secret, c'est toujours, comme depuis très longtemps,
Louis Armstrong, évidemment.
Wynton Marsalis, il est capable de vous chanter un solo de Louis Armstrong d'un bout à l'autre, sans aucune erreur, totalement dans l'esprit de la chose, mais il est aussi capable de le jouer. Et il s'est amusé à jouer à sa façon des grands classiques de Louis Armstrong, ces enregistrements qui ont donné au jazz son langage finalement dans les années 20. Il est capable de les revisiter, comme on dit maintenant. Et voici un bel exemple avec son orchestre. Ça s'appelle
Hotter Than That.
Et pour les musiciens avertis, nous soulignons que la trame harmonique de Hotter Than That est la même que celle du dernier thème de Tiger Rag que nous avons entendu auparavant.
Thank you. Chris Crenshaw.
Maintenant, voici l'autre face, une des faces du jazz, mais une des plus importantes, le blues.
Car tout le monde vous dira dans le jazz que le blues est la base de tout.
Alors, le blues, vous savez ce que c'est, je pense, mais on va vous le rappeler un tout petit peu. Le blues, ce sont des gens qui chantent leur vie, accompagnés souvent de guitares ou d'instruments relativement simples. Les bluesmen, c'était très souvent, à l'époque, des gens qui se baladaient de village en village, des musiciens itinérants, mais il y en avait d'autres qui étaient chez eux, hein, bien sûr, et qui racontaient ce qui leur était arrivé, leurs souffrances, mais aussi leur joie, avec des paroles. C'était des vrais troubadours, ces gens-là. Voilà, le blues, c'est l'autre aspect, mais alors dans les profondeurs du jazz. Hein.
Là, on va entendre une forme de blues peu connue, parce que le chanteur est celui qui joue du washboard, instrument primitif. Vous savez, la planche à laver, les dés à coudre au bout des doigts, et l'instrument qui est une sorte de petite batterie. Quoi.
Ça fait zram, zram, zram.
Alors ce chanteur de blues-là, naturellement, il s'appelait Robert Brown, mais naturellement, il était connu sous le nom de Washboard Sam. Et il était toujours accompagné dans ses enregistrements par son demi-frère, qui était le grand Big Bill Brunzi, qui, là, joue uniquement de la guitare, mais alors avec un swing terrible. Et avec eux, un pianiste qui n'a connu qu'une carrière très courte. Il a enregistré pendant 3 ans. Il n'a jamais enregistré sous son nom. On n'a pas une seule photo de lui. On ne sait donc pas à quoi il ressemblait.
C'est l'homme mystérieux.
C'est un homme mystérieux, mais on connaît son nom. Il s'appelait Joshua Altheimer. Et il y a un consensus autour de Joshua Altheimer. Tous les gens qui ont joué avec lui disent que c'est le plus grand pianiste qu'ils aient jamais fréquenté. Il est mort à 30 ans, malade, mal soigné.
Comme souvent.
À cette époque-là, les Noirs n'étaient pas terriblement pris en considération dans les hôpitaux, voire la mort de Bessie Smith. Mais on ne va pas attrister cette émission avec des choses comme ça. Ce n'est pas la peine. Voici un morceau qui s'appelle « Diggin' My Potatoes ».
On s'est dit, on va donner la traduction. Et puis on a réfléchi, parce que la traduction, elle n'est pas racontable.
Non, ce n'est pas possible. Là, non, nous ne traduirons pas « Diggin' My Potatoes », mais vous pouvez quand même l'écouter.
Well, something bad gonna happen. baby, since that evening sun went down. Well, something bad gonna happen if my baby don't be found. All right, boy, beat it off.
Tout à l'heure, je vous disais que les bluesmen, c'était des hommes, hein, puisque oui. Ils allaient se balader et que c'était quand même des endroits plutôt risqués. Hein. Je veux dire que la police n'était pas là toutes les minutes. Hein.
Ah non, c'est sûr.
Mais les femmes, elles aussi chantaient. Elles chantaient le blues. Et peu à peu, elles ont pris beaucoup d'importance dans le blues parce qu'elles racontaient leurs histoires à elles, vues des femmes. Et... c'était des personnes, vraiment. On les appelait les mamas. C'est-à-dire une femme qui a quand même du courage, de l'énergie, de la volonté. Et puis qui tenait souvent les cordons de la bourse.
Et puis qui est pas mal non plus. Hein. Mama, c'est aussi une femme qui est pas mal. Voilà,
oui,
en
oui.
Général, vu des hommes, ça.
Ça veut pas dire grosse dame. Hein.
Non, non.
Ça peut vouloir dire très jolie fille, mais qui sait ce qu'elle veut.
Voilà, quand c'est Big Mama, c'est plutôt ma mère, mais là, c'est Mama, exactement. Et Bessie Smith, que nous allons entendre, était justement quelqu'un qui savait très bien ce qu'il voulait, d'ailleurs. Et cette génération-là de chanteuses de blues a énormément fréquenté les jazzmen comme accompagnateurs. Et là, nous avons une très belle rencontre entre le jeune Louis Armstrong et Bessie Smith, qui était son aînée de quelques années. Et c'est tout à fait vu sous l'angle de la jeune fille, puisque ça s'appelle...
Reckless Blues, ce qui veut dire...
la traînée.
Quelle horreur!
When I was a
aussi actuelle maintenant, en 2014, qu'à l'époque où le disque que vous avez entendu de Bessie Smith avec Lou Armstrong à la trompette a été enregistré, à telle enseigne qu'il y a même dans le Cantal, et nous espérons que vous y avez fait un tour cet été, et que vous recommencerez l'an prochain, il y a même dans le Cantal un festival dédié au blues et plus particulièrement au boogie-woogie.
Vous me direz, c'est un drôle de nom ce boogie-woogie. Hein, ça évoque quelque chose, boogie-woogie, boogie-woogie.
Oui, on a beaucoup attribué ça au train.
Oui, parce que ça faisait le bruit, vous savez, des roues, etc. Et le train, à l'époque, c'était extrêmement important pour les gens, puisque c'était leur seul moyen d'aller loin.
Oui, généralement, dans un coin de wagon bien caché, ou même sous le wagon lui-même.
Et effectivement, alors ça c'était... Alors il y a des gens qui disent non, 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 c'est pas du tout ça, parce que cette hypothèse des roues du train, c'est pas ça.
C'est pas ça, et ça remonte plus vieux, parce qu'après tout, c'est boogie, c'est pas bogie. Hein
ah. Alors ça remonterait à quoi?
Eh bien, on pense à l'Afrique et à une danse qui s'appelle comme ça. Et puis on pense aussi au mot français bouger, qui vient de la Louisiane. Et puis évidemment, le train a peut-être eu son rôle, puisque le train c'est du shuffle, hein, tatan, 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 quand on entend les boogies qui passent sur les joints des rails. Enfin tout ça, de toute façon, ça fait de la musique et ça fait du blues. Et nous retournons à la Rock Brew en 2014, le blues étant donc, comme nous disions tout à l'heure, sans âge.
Et le fil rouge de ce festival,
c'est le boogie et le blues. Et cette année, son programmateur, le pianiste de boogie, le fameux Jean-Paul Amouroux, a eu l'idée de réunir deux big bands, c'est-à-dire il y avait 29 musiciens sur scène côte à côte, comme au Savoy Ballroom de la grande époque.
Wow.
Et ces deux orchestres se sont livrés une bataille d'orchestres, mais ils ont surtout joué ensemble. Et nous extrayons un blues, naturellement, de leur programme, enregistré sur le tas, il y a donc moins de 2 mois, et ça s'appelle...
Night Train.
Thank you.
le monde sait naturellement que l'autre racine du jazz, c'est le gospel. Et le plus célèbre gospel s'appelle « When the saints go marching in ». Quand les saints défileront, ça c'est le jugement dernier, hein, quand les saints défileront, ben j'aimerais bien être dans le tas. En fait, hein, c'est ça les paroles. Ce morceau, nous l'avons naturellement confié à la plus grande diva du gospel.
Mahalia Jackson. Il faut savoir que Mahalia Jackson, c'est quelqu'un qui n'a jamais chanté que de la musique religieuse. Mais pour vous dire, la musique religieuse jazz, c'est tonique. Et c'est quelqu'un qui était profondément, profondément croyant et qui n'envisageait sa vie que dans le gospel. Elle n'a jamais pensé faire autre chose. Il y a bien des gens qui ont dit « Mais vous êtes tellement extraordinaire, pourquoi vous ne faites pas du jazz, j'allais dire profane ?» Ah non, ça ne me convient pas. Moi, je chante pour Dieu, pour les croyants, pour voilà.
Elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, parce que la plupart des artistes de gospel et des groupes de gospel...
Oui, avaient priorité, oui, absolument.
Et là, il faut signaler aux musiciens qu'il y a un style de piano gospel. Mahalia Jackson avait son accompagnatrice attitrée qui s'appelait Mildred Falls. Et ce style de piano-là, on le rencontre vraiment que dans les églises.
Et même actuellement.
Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Well, I want to be in that number.
Alors Malia, là, elle chantait toute seule, hein. Enfin, accompagnée par sa pianiste, bien sûr.
Il y a un petit groupe, puisqu'il y a...
Oui, il y a quand même un batteur.
Oui, il y a gros, le batteur. Oui. Ça se trouve, c'est une batteuse, d'ailleurs.
Oui. Ce que vous entendez là, ça, c'est ça qui perdure en Amérique. Vous avez des tas et des tas de groupes de gospel dès qu'il y a des cérémonies religieuses. C'est complètement resté. Autant le jazz, c'est un petit peu dilué dans tout un tas de formes de jazz et puis qui ont même perdu le nom de jazz d'ailleurs. Mais là, le gospel, c'est resté. Et on va vous passer un groupe relativement récent, les Stars of Ace.
Et cet enregistrement-là, nous y étions, c'était pour un film et même nous y étions derrière une caméra pour cette circonstance. Le morceau s'appelle Dry Bones.
Tout ça en direct. Hein. Oh, franchement, ces Stars of Face, quelle énergie. D'ailleurs, ça mérite d'être un peu raconté quand même. Hein.
Mais oui, c'était une équipe de film, parce que nous avons tourné un film aux États-Unis sur le jazz et le blues, le gospel. C'est un film très connu qui s'appelle L'Aventure du Jazz, qui est encore projeté dans les festivals à l'heure actuelle. Et nous nous sommes retrouvés, toute l'équipe, au fin fond de Philadelphie, dans une paroisse perdue d'un des quartiers noirs de Philadelphie. Un quartier très pauvre d'ailleurs, mais qui était le quartier d'origine des membres de ce groupe des Stars of Faith, qui était un groupe à la renommée planétaire. Et là, nous avons vu comment ces chanteuses qu'on connaissait en concert se conduisaient devant leur public. Le morceau qui vient d'être passé est tout à fait éloquent là-dessus, parce qu'en fait, c'est le bout d'essai de la bande-son, et il n'a pas été filmé, il y a juste le son. Et les gens en face étaient tellement réactifs qu'on sent qu'elles sortent de leur arrangement, qu'elles font durer le plaisir, qu'il y a tout un tas de choses qui se passent dans ce morceau-là.
C'est un échange avec les gens d'en face.
Devant, donc, leur propre public. Celui d'où elles sont issues elles-mêmes. C'est très intéressant. C'est une inoubliable expérience que le dimanche matin, dans cette église, avec un office de 2-3 heures et les chants succédant aux sermons et les sermons aux chants. Impressionnant.
De temps en temps, avec le pasteur qui se lève et qui fait quelques pas de danse. Hein.
Eh bien, écoutez, allez voir le film le jour où vous le verrez passer. Vous ne perdrez pas votre temps. Et dans le jazz, dans les racines du jazz, il y a aussi le ragtime.
Là, c'est vraiment le point de départ absolument du jazz. C'est-à-dire que dans les plantations, les maîtres avaient choisi souvent des esclaves qui leur semblaient être doués en musique, leur avaient tout simplement donné une éducation musicale pour qu'ils puissent jouer les morceaux que eux aimaient bien, c'est-à-dire les quadrilles,
les polkas,
enfin toutes les danses à la mode de l'époque. Et du coup, c'était leur musicien attitré. Seulement voilà, quand c'était pour les maîtres, bon, on faisait sagement la chose que les maîtres demandaient. Mais quand ils se retrouvaient, j'allais dire, en liberté musicale, ils mettaient ça à leur sauce à eux.
C'était tout à fait autre chose.
Et ça a donné le ragtime.
Car un peu plus tard, après la guerre de sécession, après l'abolition de l'esclavage, il y a eu l'apparition d'une bourgeoisie noire qui a commencé à s'instruire. Et le plus célèbre compositeur qui en est sorti s'appelait Scott Joplin. Et ce Scott Joplin est le compositeur d'innombrables ragtime, dont le fameux The Entertainer, qui sert de bande-son au film L'Arnaque, qui a beaucoup popularisé. Et beaucoup de pianistes se sont emparés de ces partitions, où on regardait comment les pianos mécaniques fonctionnaient avec. Et puis voilà ce que ça donnait. Voici un vieux monsieur qui joue ses souvenirs de ragtime, très longtemps après, avec toute la dextérité qu'il avait conservée, et qui s'appelait Hubie Blake.
Et là où c'est amusant, c'est que Hubie Blake, c'est quelqu'un qui chantonnait en même temps qu'il jouait. Oh, 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 comme ça, on l'entend. Prêtez l'oreille, de temps en temps, vous aurez un petit chant de Hubie Blake. Il était très âgé à l'époque. Hein.
Oui,
mais alors, les doigts, ça fonctionnait. Hein.
Il avait un côté exclamatif, effectivement. Voici un très grand classique de Scott Joplin qui s'appelle
Maple Leaf Rag.
Le rag de la feuille d'érable. Naturellement, ce ragtime a mené aux grands pianistes qu'on appelle les pianistes stride. Ça, c'est le style de Harlem. Et tout le monde sait que les trois têtes de liste des grands pianistes stride étaient Willie Smith le Lion, Fats Waller et James P. Johnson. Et c'est ce dernier qu'on va entendre maintenant. Et vous allez voir que le passage du ragtime au jazz est quelque chose de tout à fait évident et d'assez facile finalement. Le ragtime a l'air fait pour devenir du jazz, en fait. Et on appelle ça stride. Stride, ça veut dire enjambé, parce que, comme vous pourrez entendre, la main gauche du pianiste passe son temps à aller d'une note grave à un accord pour donner toute sa trame rythmique au morceau. Et si vous prêtez bien l'oreille à ce que fait James P. Johnson avec son petit doigt, vous allez entendre une ligne de basse aussi éloquente que celle d'un tuba.
Alors, le morceau s'appelle Riffs, et les riffs, dit à la française, ce sont des petits thèmes musicaux très courts et très répétitifs qui finissent par donner finalement une impression un peu envoûtante de toujours cette répétition. Et ça, c'est très africain.
Beaucoup de gens attribuent ça à l'Afrique et surtout que le riff, on le rencontre énormément dans le blues. Ça sert beaucoup à soutenir un soliste, un riff d'orchestre par exemple.
Voici donc Riffs.
Par le seul et unique James P. Johnson.
Et maintenant, voici un pianiste inclassable. Tellement inclassable qu'au fond, il a un style Earlines. Et c'est Earlines.
On a appelé ce style-là piano-trompette parce que, en fait, Earlines s'est énormément inspiré de Louis Armstrong. Il faut bien dire que c'est lui qui a inventé ce style-là. Earlines est un vrai créateur à 100%. et même à 200%. Et ça, ça a fait école. Le surnom de Earl Hines, c'est Faza, c'est-à-dire le pianiste considéré comme le père de toute une école, et qui a d'ailleurs été l'école la plus répandue. Le stride a été moins répandu, maintenant on s'en rend compte, que la manière de jouer qu'a inventé Earl Hines et qui a fait donc école.
Des émules.
On joue encore des choses qu'on ne connaîtrait pas, qu'on n'aurait pas pu jouer si Earl Hines n'avait pas existé. Ah, voilà un exemple de cette autre manière de jouer du piano dans le jazz.
Sweet Sue.
Sweet Sue, c'est un très grand classique du jazz. Mais alors, il faut voir ce qu'Earl Hines en fait. Hein. Il est découpé dans tous les sens, des décalages partout, et pourtant, ça swing tout le temps. Extraordinaire avec Earl Hines, c'est qu'on ne sait jamais où il va nous emmener et qu'il retombe toujours sur ses pieds. C'est absolument incroyable. Nous avons assisté à cette séance d'enregistrement d'où le morceau Sweet Sue a été extrait. Là. Et nous avons vu Earl Hines faire refaire complètement un morceau, une prise, parce qu'il avait loupé une note. On n'a jamais su laquelle, on n'a jamais su où. Mais lui, non, non, ça, je laisse pas cette prise-là, on la refait. Et il a improvisé sur le même morceau d'une façon qui n'avait plus rien à voir avec la précédente. C'était sans cesse en mouvement.
C'est le vrai créateur.
Ah oui, ça, c'est le vrai créateur. Alors, comme improvisateur, c'est le campionissimo.
Parce qu'il faut bien se dire qu'un improvisateur, en réalité, c'est un compositeur. Et un compositeur dans l'instant.
Dans l'instant, dites-vous, bah justement, voilà une habile transition pour nous emmener résolument en 2014, une nouvelle fois. J'aime bien cette espèce d'extraordinaire durée du jazz, parce que tu sais qu'on va fêter dans 3 ans le centenaire du premier disque de jazz enregistré. En 1917, c'est-à-dire que ça existait déjà avant, mais le premier disque, c'est 1917.
Et là, ce sont, allez, on va dire moins de 40, tous.
Ah bah ce sont des jeunes, hein.
tous.
Ce sont des jeunes et ils jouent 97 ans après, donc l'enregistrement du premier disque de jazz. Ils sont toujours dans le droit fil de cette tradition de swing et du langage musical du jazz. Et pourtant, leur musique est totalement originale. Il s'agit de petits Français et d'une Américaine. Les petits Français, c'est Julien Brunteau.
Pianiste.
Et chanteur. Il faut savoir que Julien Brunteau, à 16 ans, était déjà membre d'un orchestre de blues noir à Chicago.
Oui, quand même.
Et il n'habitait pas là-bas. Ils sont venus le chercher. J'ai jamais su comment ça s'est passé, mais ça s'est passé comme ça. Il a trouvé un guitariste en province normande, que personne ne connaissait, qui s'appelle Marc Gaudry, qui est remarquable. Un bassiste du même tonneau, qui s'appelle Bruno Rousselet. La fille de Maxime Souris, le clarinettiste.
Et bon sang, ne saurait mentir.
Eh ben non. Julie Souris tient la batterie. Et le tandem donc de bas, c'est Julien Brunteau et Nicole Rochelle. Nicole Rochelle, c'est un petit phénomène.
Ah, extraordinaire. Imaginez une jeune noire absolument ravissante, actrice, chanteuse, danseuse. Elle sait tout faire.
Elle sait absolument tout faire. Elle était sur les planches dès l'âge de 6 ans et elle apparaît à la télévision, à peu près à cet âge-là, dans une série très célèbre en Amérique qui s'appelle le Cosby Show.
Ah oui.
Et elle a fait carrière depuis en passant par avoir joué le rôle d'une de ses grandes idoles qui était Joséphine Baker. Et elle a été repérée par Savary et elle a tenu 2 ans le rôle de Joséphine Baker à l'opéra comique.
C'est ce qui l'a fait véritablement connaître en France.
En France, du coup, elle s'est fixée en France, d'ailleurs.
Oui, oui, elle aime. Et d'ailleurs, elle a le nom de Nicole Rochelle, qui est extraordinairement français.
C'est une famille de New Jersey, où le père de famille, M. Rochelle, a toujours été partisan du bilinguisme dans sa famille.
Oui, parce qu'ils ont des origines françaises, sans aucun doute, et ils y sont extrêmement attachés.
Et c'est pour ça que c'est très facile d'interviewer Nicole Rochelle, ce dont je ne me suis pas privé d'ailleurs il y a 2 ans. Et là, ce petit orchestre et ses deux joyeux compères et commères chantent un morceau. Ça se passe vraiment il y a 2 ou 3 mois, pas plus. Ce morceau s'appelle « Let the good time roll ».
Allez, laissez courir le bon temps, allez.
Voilà, laissez courir le bon temps, exactement. Et c'est bien tout le mal que nous vous souhaitons. Jusqu'à la prochaine émission.
Let the good time roll. Let the good time roll.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.